Bienvenue sur le ciel du mois de décembre 2022 en présence de Stéphane Davet. Bonjour Stéphane.
Mais bonjour Victor.
Quoi de neuf en décembre ?
Alors en décembre, pas mal de choses tout à fait intéressantes. On va bien sûr parler des planètes, des constellations qu'on peut regarder aussi. Et puis il y a quelques événements à ne pas louper durant ce mois de décembre.
Donc on sait que décembre, c'est là que la nuit est la plus longue, donc c'est un mois qui est intéressant pour les observations.
Voilà, exactement. Le soleil se couche aux alentours de 4h l'après-midi déjà, donc à partir de 5h, 5h15, voire 5h30, pour avoir vraiment une nuit bien, bien sombre. On peut déjà faire des observations du ciel profond. Et puis, la pleine lune, elle a lieu le 8 ce mois-ci, donc de nouveau, les meilleures observations du ciel profond pourront se faire essentiellement dans la deuxième partie du mois de décembre.
En pleine période de vacances de Noël.
Exactement, et à la fin du mois de décembre, il y aura des choses intéressantes à observer justement.
Au niveau des planètes ?
Alors bien sûr, toujours, on a nos deux stars du ciel hein, qui sont toujours là, Jupiter et Saturne. Par contre, Saturne, elle commence gentiment à s'échapper en direction du coucher durant la nuit. Donc, on ne peut l'observer finalement plus qu'en début de nuit, puisqu'elle va assez vite se coucher vers le milieu de nuit.
Donc, elle a rattrapé le soleil.
Ouais, si on veut, c'est exactement ça, c'est par rapport à son orbite. Hein, c'est toujours relatif, les choses, à ce niveau-là. Et puis, Jupiter est toujours bien présente. Elle passe au sud vers minuit. Et donc, vraiment, elle est assez très, très brillante. Et donc, ça vaut la peine de l'observer. Et puis, il y a Mars qui commence aussi à être observable bien à l'est, en début de nuit. Et puis, durant toute la nuit, ensuite, on peut l'observer, Mars. Et Mars est très intéressante à observer ces prochains temps, puisqu'elle passe le 1er décembre à son périgée, c'est-à-dire qu'en fait, elle est au plus proche de la Terre. Elle est à peu près à 81 millions de kilomètres de la Terre, donc son diamètre est le plus grand possible par rapport à la distance, qui est donc la plus faible. Et puis, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va, elle monte assez haut dans le ciel, à peu près à 70 degrés de hauteur, ce qui fait que lorsque c'est autour des 2-3 heures du matin, quand elle est à son plus haut sommet par rapport à l'horizon, eh bien là, vous avez pratiquement pas de perturbations atmosphériques visibles. En plus, il fait assez froid et puis son diamètre est maximum, donc idéal pour faire des photos ou pour l'observer aux jumelles.
Donc, pour résumer, si on regarde plein sud, on a d'abord Saturne, ensuite
exactement.
Jupiter et pour finir Mars.
Mars et qui passe assez haut et donc très très bien visible. Si vous voulez faire des photos de cette planète, c'est vraiment maintenant qu'il faut les faire.
Donc assez haut, ça veut dire qu'en général, les planètes, elles suivent à peu près la même trajectoire que le Soleil, mais là, Mars est un tout petit peu plus haut que ce que passe le Soleil.
Exactement, comme c'est une planète interne, les orbites, elles sont pas tout à fait sur un même plan. Et donc là, en l'occurrence, ça joue bien et la planète, elle est assez haute dans le ciel.
Et 81 millions de kilomètres, donc au plus proche de la Terre, ça veut dire qu'on est, enfin grosso modo, ça veut dire qu'on est les deux planètes du même côté du Soleil, c'est ça ?
Exactement, exactement. Donc les deux planètes se croisent du point de vue des orbites, si on veut bien. Voilà, exactement.
Au niveau des constellations ?
Alors bon, on n'a pas grand-chose comme constellation nouvelle ce mois-ci. Il y a le Bélier, constellation du zodiaque.
Qui ressemble à un Bélier, donc.
Alors, il faut déjà être très imaginatif pour voir un Bélier. Mais effectivement, les anciens avaient imaginé dans cette constellation un Bélier. Et puis surtout, je dirais Persée, qui est cette constellation assez intéressante, puisqu'il existe une étoile dans cette constellation qui s'appelle Algol. Algol, c'est une étoile variable. Et ce qu'il faut peut-être dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a plus de 50% des étoiles du ciel qui sont des étoiles qui varient en intensité lumineuse. On ne remarque pas forcément, parce que les variations peuvent parfois être sur de très grands temps. Mais ici, Algol, elle varie à peu près tous les 2 jours et demi. Et donc, les anciens avaient très bien vu que c'était une étoile déjà brillante et qui varie assez, assez rapidement. Et ça avait créé des peurs dans la population et dans l'imagination des gens. Et d'ailleurs, dans Persée, l'étoile Algol figure en fait la tête de la Gorgone. Peut-être vous savez que Persée a été tranché la tête de la Gorgone dans la mythologie grecque. Et il avait emporté la tête de cette Gorgone. Il avait figé le monstre Séti, la baleine, dans la constellation de la baleine, en fait. Et il avait figé le monstre Séti qui allait dévorer Andromède. On en avait parlé un tout petit peu, j'imagine, le mois passé. Et donc, la tête de la bête, c'est Algol, justement.
N'étant pas un spécialiste des Grecs, donc c'est les Grecs qui ont inventé le nom des constellations.
Alors, Algol, c'est arabe, mais les Arabes ont repris certaines dénominations grecques, en fait, certaines traditions grecques. Algol, c'est en arabe, ça veut dire le Razalgol, Razalgul plutôt. Ça serait la tête du monstre, en fait. La tête du troll, on pourrait dire, par exemple. Okay.
Donc, on peut que encourager nos auditeurs à aller sur Internet s'ils veulent plus d'informations et puis d'observer cette étoile qui varie, qui a fait peur.
Exactement.
Au niveau des phénomènes astronomiques intéressants ce mois-ci.
Alors, il y a pas mal de phénomènes astronomiques intéressants, notamment le 8 décembre. Le 8 décembre, vous avez une conjonction exceptionnelle entre Mars, on en parlait tout à l'heure, et la Lune. La Lune, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début de l'émission, elle sera en pleine Lune, donc ça sera assez intéressant de voir la pleine Lune avec Mars qui va quasiment aller se cacher derrière la Lune. Et ça, c'est un phénomène qui est assez rare. C'est pas chaque année qu'on peut avoir ce genre de phénomène-là. Donc Mars qui est tellement proche de la Lune qu'il passe en fait derrière la Lune. Et ce phénomène se passera entre 6h et 7h du matin. Donc ça sera lorsque la Lune sera en train de se coucher, en fait, qu'on pourra observer ce phénomène-là, qui est très 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 intéressant. En fait.
Donc c'est une éclipse de Mars par la Lune.
Exactement, une éclipse de Mars par la Lune. Vous avez également le 12 décembre le maximum de l'essaim des Géminides, donc un essaim d'étoiles filantes, et on estime cette année que le taux de d'étoiles filantes qu'on aura par heure sera compris entre 120 et 160 étoiles filantes par heure, donc un taux assez exceptionnel. Hein, cet essaim de météorites n'a rien à envier aux Perséides du mois d'août. Et là, en plus, on pourra l'observer durant toute la nuit.
Donc statistiquement, en 30 secondes, j'en vois une.
Effectivement, voilà.
Dans quelle direction il faut regarder ?
Ben, il faut surtout pas regarder dans la constellation des Gémeaux. Donc, en fait, si vous regardez au sommet du ciel, vers le zénith, c'est l'idéal, en fait. Et c'est des matériaux qui tombent sur Terre, qui font des étoiles filantes assez brillantes et de courts chemins. Le chemin de l'étoile filante est assez court, mais assez brillant. Et on voit assez traditionnellement, chaque année, ces Géminides, elles peuvent nous donner des bolides, c'est-à-dire des objets un peu plus gros qui arrivent et qui sont assez impressionnants à observer, qui ont une trace beaucoup plus longue et qui sont des objets un peu plus gros et du coup aussi plus brillants et plus impressionnants.
On pourra faire donc beaucoup de vœux dans ces périodes de Noël.
Ouais, absolument, alors, mais quand même pas trop. Hein. Sinon, il y a aussi le 21, évidemment, le 21 décembre, c'est le solstice de décembre, donc passage à l'hiver. Et ceci se passera à 22h48, très exactement, en fait.
Donc, ça veut dire qu'à 22h49, on recommencera à avoir des journées qui se rallongent.
Exactement, c'est exactement ça.
Donc, le 21 décembre étant la journée la plus courte.
Oui, absolument. Et puis, on a une dernière chose assez intéressante, le 26, on a la visibilité des 5 planètes. Donc, c'est-à-dire le matin, on va voir Vénus, ça c'est clair, hein, Vénus, l'étoile du berger, et puis Mercure, qui sera un peu plus difficile à observer, et puis durant la nuit qui suit, vous allez avoir, bien sûr, Saturne, Jupiter et Mars. Donc, les 5 planètes visibles à l'œil nu seront visibles là, durant quelques jours, le 26 et les quelques jours qui suivent en fait.
L'étoile du berger, donc, c'est une étoile, une planète ?
Alors, justement, c'est ce qu'on appelle l'étoile du berger, c'est en fait Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du soir et l'étoile du matin. Hein. Des fois, on voit cette étoile qui brille juste avant le lever du soleil ou qui brille juste après le coucher du soleil. Mais en fait, c'est chaque fois, toujours, en fait, le même objet. C'est la planète Vénus qui est extrêmement brillante dans le ciel.
Au niveau des phénomènes astronomiques intéressants qu'il y a eu le mois passé, on a parlé d'un repas gargantuesque dans l'espace où une étoile se serait fait manger par un trou noir. Alors, c'est quoi cette histoire ?
Bah écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on est équipé sur Terre de beaucoup d'instruments astronomiques, notamment des télescopes automatiques qui scannent le ciel constamment et qui peuvent donner éventuellement des alertes s'il y a un phénomène incroyable qui se produit. Et effectivement, il y a un objet qui est devenu extrêmement brillant dans le ciel pendant quelques jours. Et puis, on a pu pointer notamment le Very Large Telescope dessus. Et d'autres instruments qui ont permis d'observer ce phénomène dans différentes longueurs d'onde, dans les rayons X, rayons gamma, infrarouges, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que la lumière qui avait été observée par le télescope d'alerte, c'était un trou noir supermassif qui se trouve dans une galaxie très lointaine, à plus de 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc c'est vraiment là, on est vraiment aux confins de l'univers. Et on pense que ce trou noir supermassif a absorbé, a mangé, comme vous le dites, une étoile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une étoile se rapproche trop d'un trou noir, il va être perturbé, il va être disloqué par les forces de marée du trou noir. Il va donc être morcelé en fragmenté, si vous voulez. Et ensuite, cette matière va tomber sur le trou noir, va spiraler en tombant sur le trou noir. Et c'est en spiralant que vous avez des rayonnements en rayons X très intenses qui sont émises. Et puis, vous avez 2G orthogonalement au plan du disque d'accrétion qui vont être émis avec aussi des rayonnements extrêmement énergétiques. Et c'est un de ces rayonnements, en fait, qu'on a eu la chance de pouvoir observer, puisque la Terre aussi, en fait, c'est purement de la chance, hein, la Terre était pile sur le trajet de l'un de ces jets. Donc, on a pu observer le phénomène. Mais c'est vrai que c'est, du coup, quelque chose qu'on observe rarement. Et puis, je crois que le dernier événement du même genre qu'on avait pu observer, c'était en 2012. Et puis, maintenant, avec tous les équipements qu'on a, on a pu en tirer des informations extrêmement importantes sur comment ça se passe, qu'est-ce que c'est exactement ce phénomène qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler un de ces gamma ray bursts dont on a parlé le mois passé. Mais c'est vrai qu'on peut, grâce à cette observation maintenant, avoir plus de précision sur qu'est-ce que c'est exactement. Comment on arrive à discriminer entre un gamma ray burst, par exemple, ou alors une étoile qui se fait absorber comme ça par un trou noir supermassif.
C'est pas visible à l'œil nu.
C'est visible à l'œil nu, mais il faut regarder au bon moment. C'est ça.
Et puis, on parle de rayons X, de rayons gamma, qui sont beaucoup plus énergétiques que les rayons X, beaucoup plus dangereux, style bombe nucléaire. Mm-hmm. En direction de la Terre, est-ce qu'on a des inquiétudes à avoir ?
Alors, quand c'est des objets qui sont à 8 milliards d'années-lumière de la Terre, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est clair que si on a un phénomène du même genre qui provient de notre propre galaxie, là, ça pourrait éventuellement poser des problèmes de destruction de certaines infrastructures sur Terre. Ça, c'est clair. Ou même peut-être des problèmes dans la haute atmosphère de la Terre, les satellites et ce genre de choses. Ça pourrait être dangereux, oui, mais pas quand c'est des objets qui sont aussi lointains.
Et puis, pour les auditeurs, quand même, s'imaginer que 8 milliards de distance, ça veut dire que le phénomène s'est passé alors que la Terre n'existait pas.
Absolument. La Terre a 4,5 milliards d'années, donc il y a 8 milliards d'années, voilà, c'était... Donc le phénomène s'est produit avant même que la Terre se forme exactement. Donc c'est bien avant même, disons, 8,2 milliards d'années-lumière. Donc l'univers, il a 13,5 milliards d'années, donc voilà.
Merci Stéphane.
Merci beaucoup.
On se retrouve l'année prochaine, au mois de janvier, lors de l'Épiphanie, pour parler de la légende qu'il y a autour des rois mages et puis de ce qu'on a dit avant, l'étoile du berger.
Exactement, avec plaisir. Bonne année à tout le monde.
Merci beaucoup, bon Noël et bonne année à tout le monde.